Donc toutes ces bifurcations vont jouer, et ça va nous donner en fait des dramatisations. Bon, on retrouve d'ailleurs nos acteurs de ce matin, en partie Silvia Campesina, qui dit c'est pas du tout le futur qu'on veut nous. Et vous avez le sauver des peuples, entre guillemets, qui a lui en face et qui définit complètement en fait les chemins, hein, et qui conteste en fait l'économie verte déjà fortement en 2012 à Rio. Les acteurs qui maintiennent eux leur scénario contre vents et marées. Donc là, c'est la solution. Alors c'est vrai que dans les bureaux des ministères, là, ça parle parce que c'est clair. Il n'y a pas tellement de discussions à voir. On a en fait les chemins définis par des gens qui maîtrisent, qui se veulent propriétaires des enjeux, en tout cas sur l'avenir du nucléaire. Et vous avez effectivement émergence de contre-modèles. Alors, celui-là, j'ai beaucoup travaillé, d'abord parce que je discute beaucoup avec Yves Marignat, qui est un des porteurs de mégawatts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu une portée assez considérable, parce qu'effectivement, il a réussi, au moment du débat sur la transition énergétique, à mettre au travail, en fait, d'autres acteurs qui n'avaient pas tellement élaboré, je pense à l'ADEME, enfin, qui était quand même sur le propriétaire, on va dire, des questions énergétiques, et qui a dû, en fait, faire le tri, et finalement, qui a proposé quelque chose qui n'est pas très éloigné, avec d'autres dimensions, en étant un peu plus soft. Mais Negawatt, en fait, est ressorti récemment, donc en janvier 2017, ils ont mis à jour. Alors évidemment, ils avaient dans la tête la campagne électorale qui arrivait. Donc tout ça, c'est quand même réglé sur un certain type d'agenda. Et il s'agit, en fait, de montrer qu'en fait, avec le scénario Negawatt, ils peuvent faire encore mieux que ce qu'ils avaient fait dans la version antérieure et proposer pour 2050, en fait, un système, un scénario énergétique, en énergie primaire, mais aussi dans toutes les autres formes ensuite dérivées, parfaitement vertueux, qui consiste aussi à transformer l'ontologie, puisque la sobriété devient une valeur, hein, énergétique, alors que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était hors cadre. Enfin, voilà, il change l'espace de calcul. Et donc, le travail sur le futur va amener les acteurs à modifier, en fait, littéralement, le système formel. Vous voyez que... Bon, je ne vais pas entrer, parce qu'en plus, c'est petit. Mais vous voyez, c'est très vite... Et là, c'est la synthèse. Hein. C'est le résumé à l'intérieur de la synthèse. On a un vrai problème aujourd'hui, c'est que la densité des argumentaires, des acteurs, de la technicité fait qu'il passe du temps, ça demande de s'arrêter et de vraiment zoomer sur les détails. Par exemple, le point 11, il n'y a plus de temps à perdre, très intéressant, puisque c'est la question du régime de temporalité. Ce scénario n'est évidemment intéressant que si on passe à l'action le plus vite possible, c'est-à-dire que ce n'est pas un scénario qu'on pourra ressortir dans 5 ans. Hein. C'est un peu pareil pour le climat, si vous voulez, il y a des moments en fait, de changement de régime temporel qui font que... bon, je vais passer là-dessus, je vais juste dire que tout ça m'a amené à réfléchir sur les rapports de la sociologie et des sciences sociales en général à la question de la preuve, de ce qui fait preuve pour les acteurs. Et finalement, on tombe sur un triangle qui était un peu sous-jacent à ce qu'on faisait depuis longtemps, où il y a trois formes, trois grands régimes de preuve qui sont tout le temps en interaction, et qui rendent à la fois compte de cette incomplétude dont Bernard a donné des éléments ce matin, mais en même temps du travail que font les acteurs pour solidifier leur rôle. Donc il y a un régime axiomatique, c'est celui vers lequel tendent le maximum de disciplines pour se légitimer dans une forme d'autonomie comme la syntaxie grammaticale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre à ce que tu appelais des externalités, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, leur système de démonstration est complètement fondé sur des actions propres à la discipline, la physique, l'astrophysique, qui arrive justement à prévoir des phénomènes sans qu'on y ait quand même de visibilité. Alors là, pour le coup, Baudard a raison. C'est très difficile, du point de vue phénoménologique, de voir venir la comète machin et de calculer la distance à la planète à tel moment, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un cadre axiomatique qui s'est construit et qui fonctionne. Alors pourquoi il fonctionne? C'est parce que nous n'interagissons pas véritablement avec les planètes lointaines, enfin, pour l'instant. Pour imaginer le méga anthropocène, en fait, où on a réussi non seulement à bousiller la planète, mais aussi le système solaire, etc. Le régime conventionnel, c'est celui sur lequel les sciences sociales sont le plus à l'aise. Parce que c'est en gros ce qui fait tenir, c'est l'accord sur l'ontologie, la catégorie, l'équivalence, qui fait que, par exemple, on peut faire des statistiques. On a stabilisé, par exemple, des catégories de pathologie, de population, voilà, on sait dénombrer la population d'une ville, quelques migrants près. On peut faire des simulations pour gérer les incertitudes. Mais on a un régime conventionnel, et vous voyez qu'il y a une tension entre les deux, c'est que le conventionnel, il est déjà, il fait appel à de l'histoire, à des acteurs, des porteurs d'enjeux, à des définitions qui peuvent tout à coup changer. Si vous définissez les perturbateurs endocriniens d'une certaine manière, vous n'avez pas les mêmes listes de chimiques que si vous les définissez de manière extensive, par exemple. Et donc là, la question des preuves va bouger avec. Pour les scientistes ou les rationalistes, c'est un problème. Pour nous, sciences sociales, c'est au contraire, c'est plutôt l'axiomatique qui est un problème. C'est-à-dire que on doute sur l'axiomatique, je trouve que c'est dommage. Ce qui est intéressant, c'est la tension entre les deux. Mais on ne peut la résoudre que si un troisième terme, et là j'ai beaucoup de mal à la rapatrier, c'est pour ça que je saute toujours un peu, je piétine quand je vois qu'il y a une défiance vis-à-vis de la perception ordinaire, on ne peut pas se passer du recoupement sensible, puisque jusqu'à présent, toutes nos formes de communication et d'échange prennent appui sur notre capacité à partager le monde sensible. Vous voyez bien d'ailleurs que si la Terre se met à trembler ici, ou si la quantité d'oxygène augmente de manière massive, ou la température, etc., en fait, on va bien sentir qu'il se passe quelque chose, et ça va être quand même à la base d'un système d'alerte collectif. Et qu'on a besoin, en fait, constamment de regrouper et de passer par les expériences. Or, tous nos acteurs qui entrent dans des alternatives ont ce moment, en fait, de rupture avec le caractère dominant de l'axiomatique ou stabilisé du régime conventionnel, pour faire valoir, en fait, d'autres manières, d'autres prises, en fait. La permaculture, par exemple, c'est au début, on dit, vous savez, c'est des illuminés, la biodynamie, pareil, toutes les stratégies pour déplacer un petit peu, alors on l'a beaucoup vu sur l'électrosensibilité, on en parlait à l'époque, où les gens, tout à coup, posent des problèmes à la question des ondes, qui est totalement invisibilisé, où les métrologies savantes nous disent, bon, il n'y a rien, etc. Voilà, etc. Bon, ils vont finir par reconnaître un effet thermique, et après peut-être effectivement sur les enfants il faut quand même prendre des précautions, on dit, bah oui, mais si vous le faites sur les enfants il faut le faire sur la femme enceinte, il faut le faire sur, bon, pour pas les chats et les chiens aussi d'ailleurs. Tout le droit des animaux change, on voit que le régime conventionnel peut complètement changer, on peut aussi faire valoir des souffrances qui n'étaient pas prises en compte, et donc cette circulation va être en fait importante à regarder systématiquement avant même nous-mêmes d'accepter de s'aligner sur un des régimes au détriment des autres. Alors on peut dire que c'est une forme de relativisme, mais non, moi je trouve que c'est au contraire une espèce de réalisme renforcé. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on consolide encore le dispositif de preuve plutôt que de le déconstruire en disant tout est construit, c'est culturel, si vous êtes féministe, vous avez une épistémologie différente, si vous êtes nord-africain, si vous êtes d'une famille d'immigrés italiens, vous avez une toute autre conception du terme réseau, par exemple. Enfin, bref, donc, c'est pas du tout aller vers un relativisme culturel, mais au contraire, pour consolider les appuis. J'ai un œil sur le truc, je vais juste vous dire que tout ça, il va falloir l'oublier. C'était une tentative analytique un peu folle de bien répertorier les modes dans lesquels se placent les acteurs pour penser le futur ou agir en regardant devant eux. C'est du bon sens après coup, mais est-ce que c'est vraiment utile? J'en sais rien. Enfin, c'est publié, vous trouverez plein de trucs. Après, si vous avez ce genre de typologie, ça bouffe tout l'espace. Hein, parce que vous voulez des exemples, des prototypes. Vous voyez que la ligne science-fiction est arrivée un peu tardivement. Il y a une version publiée où elle n'était pas. C'était une faute lourde. Bon, tout ça, ça a donné lieu à des variations. Mais les futurs, en fait, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment explorer. Par exemple, le type d'axiologie, parce que le futur engage toujours une axiologie puisqu'il n'existe pas, donc il y a toujours une dimension, on va dire, normative aujourd'hui. Le type d'angle qu'ont les acteurs sur ce qui peut se produire, vous savez, quand on est un peu trop orienté vers une direction, une seule, ma réélection en 2024. C'est pas moi, hein, mais vous voyez, si c'est ça le but, effectivement, vous risquez de ne pas avoir des possibles latéraux, c'est clair. Des émergences. Bref, voilà. Et j'avais fini, alors ça c'est grâce à des collègues allemands, il y avait une espèce de workshop sur ces questions-là. Comme ils sont très rationalistes, il fallait que j'ai ramené mon truc à quelques propositions. En gros, pour être crédible quand vous annoncez un futur, il y a quand même des contraintes inévitables. Il vaut mieux avoir une échelle temporelle, parce que si vous dites comme Jean-Marie Beignet, que j'aime bien, Jean-Michel Beignet, demain, virgule, les post-humains, mais demain c'est quand déjà? Une échelle temporelle. Donc, s'il me dit en 2070, les post-humains, bon, ben, il me donne une espèce de mesure du temps dans laquelle je peux me situer. Un modèle de transformation, je passe de X à Y, transition, la transition pour moi c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est le modèle de transformation que les acteurs se donnent pour passer d'une étape à l'autre, sinon la notion de transition, tout ça n'a pas de sens en fait. Il faut faut bien passer d'un point à un autre pour qu'il y ait transition. On est entre deux, états. Une logique d'action, c'est-à-dire que la transformation, elle peut être tirée, poussée, le laisser faire, ça peut être hyper volontariste, léniniste, macronien, et puis surtout, pour que ça tienne la route, avoir passé les épreuves de mise en discussion. Alors je passe là-dessus, mais c'est très important. Une vision du futur pour résister doit résister à des boucles de révision. Ça, je l'avais défendu devant un groupe de Foresight Studies européen, des agences qui se posaient la question de comment voir venir les nouveaux sujets. Quoi. Et en gros, cette idée que une vision du futur ne peut pas résister, si elle n'est pas passée par un certain nombre d'épreuves dans lesquelles en fait, on a sélectionné d'une certaine manière les possibles, et on voit les points critiques à travers un processus de délibération. Bon, je passe, parce que, mais ça renvoie à toute une philosophie de la révision des croyances qui est un vieux truc. Je ne sais pas si vous connaissez. En France, vous avez surtout Pierre Livet qui a beaucoup développé ça, que l'on connaît ici, sur la révision des croyances. C'est-à-dire que ce qui est important dans les controverses et tout comme ça, c'est qui va réviser, qui va revoir. Et si chacun reste sur ses positions du début jusqu'à la fin, évidemment, la controverse n'est pas très productive, de la même manière qu'un forum participatif. C'est-à-dire que si on a finalement entendu tout ce que tout le monde disait ou prétendait au départ, et qu'à la sortie on a enregistré simplement, c'est un peu le point des débats publics,
c'est le débat parfois. C'est ce qu'on attend d'un forum sociétaire.
Voilà, c'est ça. Donc là, l'idée, c'est les capacités de révision qui sont différentielles et qui sont parfois manipulables, effectivement. Arriver à faire changer d'avis, c'est un des enjeux. Là, c'est du blabla sur le pragmatisme, pourquoi on est tous devenus fous avec Daniel Sefa et quelques autres, hein, passer notre temps à lire Dewey, machin, etc. Tout ça pour fonder. En gros, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de continuer à refouler le maximum que je peux les cités de Voltaire et Thévenot. C'est une de mes occupations. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils ont une conception hyper classique de la logique. C'est-à-dire qu'il y a une axiomatique, il y a des cités, et on dérive, en fait. On identifie une situation, on la code dans cette cité, et donc les règles s'appliquent, sans voir que les acteurs ont des capacités de révision, qu'il y a une pluralité de manières de construire les conséquences, et qu'en réalité... On est aujourd'hui, et ça c'est tout à fait en prise avec ce qu'a montré Bernard, dans un type d'épistémologie qui suppose une logique non monotone, c'est-à-dire qui s'écrit chemin faisant en fonction des heuristiques et des enquêtes que mènent les acteurs. Et même dans des instances extrêmement sophistiquées comme le GIEC, on voit bien par exemple l'arrivée des événements extrêmes, à un moment donné, qui sont considérés comme difficilement prouvables, dire que effectivement Irma, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, elle y est, c'est passé parce que il y a l'idée de série, et progressivement, on change le regard sur ces événements, et on crée des outils, et c'est chemin faisant.
On vient de la métropole.
Exactement. La biodiversité, c'est la même chose. Bon, donc je passe, donc le bouquin, vous l'achetez, vous le lisez, voilà. Sur l'Anthropocène, le topo commence aussi à s'animer, mais bon, c'est très difficile de contrer frontalement, parce que c'est assez facile à exemplifier. Alors, tu vois, là, c'est pas un problème de métrologie. Tu survoles le San Paolo, ce qui va m'arriver dans quelques semaines, là. Tu te dis, putain, c'est vrai que quand même, on y a été fort, quoi, nous les humains. Hein. Ou vous allez en Alberta, ou vous allez à l'Étang-de-Berre quand ça crache un peu, voilà, etc. Ou la mer de plastique, ou plein d'autres exemples. On marque, il y a du marquage, on ne va pas contester. Par contre, ce qu'on peut, bon, pareil pour le climat, je passe, etc., je vais m'arrêter bientôt. Ce qu'on sait, c'est que derrière ces modèles et ces représentations, il y a toutes ces interactions très complexes sur lesquelles les sciences sociales doivent trouver une position pour ne pas être simplement le bras armé d'une expertise. Légitimé, quoi. On accompagne pour faire comprendre l'enjeu climatique aux gens, les accompagner dans le processus d'adaptation, ça c'est une discussion que j'ai avec Hervé Lepoint, notamment sur l'Aquitaine, c'est comment en fait les acteurs peuvent avoir des versions et des enjeux complètement différents et renverser en fait en jouant justement sur la pluralité des conséquences et des manières en fait d'entrer dans le problème. Puisqu'effectivement chaque groupe d'acteurs va se saisir de ces questions-là par des bouts complètement différents. C'est un agriculteur qui perd trois saisons de suite ses vignes dans le Médoc, il va commencer à se poser des questions et il va interroger par exemple le centre, le collectif du vin, le syndicat du vin bordelais sur qu'est-ce qu'ils font pour aider les agriculteurs à se prémunir, etc. Pareil sur les événements extrêmes nucléaires, vous voyez que là on a un exemple maintenant qui est massif. Etc. Bon, je passe sur. Je repassais juste par là pour vous montrer que ça a des conséquences sur les dossiers et que ce n'est pas uniquement en fait de la rhétorique. et pour en finir avec ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, une fois que j'ai fait ce parcours, pour montrer l'enjeu en fait, d'une sociologie des transformations ouverte à toutes ces dynamiques, c'est d'aller voir concrètement comment, sur des terrains, les choses se posent. Vous voyez, cool, ça peut paraître aujourd'hui flagrant, quand même. La centrale du Blayais, vous avez d'ailleurs le code de Bourg juste à côté, au passage. Là, en face, c'est le Médoc. Alors là, on les a un peu dans le nord, donc les prix ne sont pas exactement les mêmes que du côté des châteaux célèbres, etc. Mais vous avez quand même une relation qui est devenue problématique. Alors qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était deux mondes qui étaient totalement pas connectés et la relation n'était pas établie. Alors ça peut dire quand même, c'est incroyable. On a implanté une centrale nucléaire au milieu du vignoble, etc. Et en fait, il va falloir trouver des moyens de gérer. Alors, la manière de le gérer, ça va être effectivement de monter en généralité avec le climat, puisque les deux vont être vulnérabilisés, la centrale comme la vigne, donc cause commune, ou en faisant, en entrant par des événements, comme sur les questions des pesticides dans le vignoble et des incidents dans le clair, ou la troisième stratégie, c'est celle de Ségolène Royal, qui est excellente. Alors, je ne sais pas si c'est resté, parce que le site a dû changer depuis. On crée une zone marine protégée, qui s'appelle donc le parc naturel marin de l'Estuaire de la Gironde de la mer des Perpures. C'est une stratégie hein, pour faire des contre anthropocènes justement pour protéger des endroits et commencer à les préparer à notre état du monde. Et sur le site, vous avez donc des huîtres, des pêcheurs, des plages, du tout comme ça. Vous n'avez absolument pas de centrale nucléaire, ni d'ailleurs d'usine Seveso, parce que je vous rappelle que le bec d'Ambès, qui est juste la petite pointe là, près de Bordeaux, c'est trois Seveso qui sont à peu près dans le même état que peut être la ZF. Avant l'explosion. D'ailleurs, il y a eu des événements limites ces dernières années, et ils stressent. Le préfet, notamment, n'est pas vraiment stressé. C'est comme on comprend. Donc, en fait, on arrive à avoir des acteurs qui vont essayer de reconfigurer le monde. Alors là, c'est typique du réenchantement dont je parlais tout à l'heure. On va réenchanter, en fait, l'estuaire de la Gironde, parce qu'évidemment, l'estuaire de la Gironde, il est quand même sacrément travaillé. Quand on parle du futur, c'est intéressant de ne pas le voir uniquement sur les tableaux ou dans les rhétoriques, mais de le voir sur les sols, sur les choses elles-mêmes. Là, vous avez un bâtiment qui s'appelle Le Signal, quand même, au Verdon. Il était à 200 mètres de la mer, il y a encore 10 ans. Et là, maintenant, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le trait de côte bouge. Toute la zone est complètement transformée. Vous voyez que la centrale nucléaire, les prophètes de malheur vous disent, ben, dans 10 ans, en fait, si elle n'est pas démantelée à temps, elle va se retrouver submergée dans des conditions qui sont totalement inexploitables, etc.
Elle est sur quelle flèche hein
c'est... Ben, c'est la deuxième, celle qui est à l'intérieur.
C'est à l'intérieur.
Voilà. C'est un polder, en fait, hein, le nom du Médoc, en réalité. Historique, un vieux truc. C'est-à-dire qu'il peut parfaitement disparaître. On peut avoir une situation totalement inédite du point de vue de la transformation des milieux marins et de l'estuaire, puisqu'en plus, il y a les inondations qui viennent de l'intérieur, dans le bassin versant Garonne à Dour, et ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des niveaux, avec plus des tempêtes par-dessus, des grandes marées, etc. C'est ce qui s'est produit en 1999, que Greenpeace, évidemment, rappelle en permanence. C'est la première fois, lors d'une campagne il y a quelques années, où Greenpeace cite les noms des châteaux, Lafitte, Margaux, Saint-Estève, Saint-Julien, et met en face la centrale nucléaire. Et donc là, ça a provoqué dans les milieux viticoles, si vous voulez, des réactions... pas épidermique, mais d'angoisse, parce qu'effectivement, au bout d'un moment. Alors, contre anthropocène, les viticulteurs, certains vont s'adapter. Il y a ceux qui vont doubler les passages, c'est la colonne de droite, ceux qui vont au contraire viser le bio. Et donc, le bio dans le Médoc, c'est une sinécure. Une sinécure pour différentes raisons, parce qu'il va se produire plein de phénomènes, évidemment, qui sont liés à l'activité viticole, c'est-à-dire que la vigne va être envahie d'un tas de créatures qui étaient plus ou moins prévues, les escargots, c'est pas nouveau. Mais, alors ils ont essayé de monter un circuit court de cagouilles bio, du coup, parce que le mec pouvait attester qu'elle venait dans ses vignes à lui et pas dans celle du voisin, donc c'était bio. Et il y a un restaurateur qui a essayé de jouer le jeu, mais il a fondu les plombs, donc maintenant il doit les ramasser à la main. Alors il a essayé les poules, mais ça a tiré les renards. Il a essayé les classes scolaires, mais c'était quand même... Comment se débarrasser? Parce que c'est coûteux d'enlever chaque escargot sur chaque feuille. Je veux dire, il y a un boulot... À ma boîte en biodynamie et croire à fond, à un moment donné, c'est quand même problématique. Surtout que vous avez à peine fini, boum, il y a une grêle, beaucoup de gel, en fait. Voilà, donc cette sinécure-là, on la travaille avec les acteurs. Là, oui, il met son greffon lui-même, donc il va faire des greffes, évidemment... contestant l'industrie qui fait ses greffons, qui fait les greffons industriels, qui sert essentiellement à la vigne, ce qu'il appelle les chimiques. Et donc là, il va y avoir une reconquête par le pli, le geste singulier. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas développer une sociologie en disant ouais, bon, c'est perdu d'avance, etc. Au contraire, essayer de comprendre les conditions dans lesquelles cette alternative se révèle. Voilà. Bon, je passe, mais vous voyez que ça devient vraiment un problème. Donc, même la revue du vin de France en 2017, donc c'est au mois de juin, c'est très récent, pose le problème. Donc effectivement, rupture de la confiance entre deux mondes qui sont quand même les deux mannes principales du coin, EDF versus le monde viticole, c'est pas rien, c'est pas la Juppé qui dit le contraire. Donc, si vous voulez, là, on est face à des ruptures qui étaient totalement impensées, hein, il y a encore 10 ans. Et donc, c'est très important d'aller voir les futurs, là où je pense qu'on est tous d'accord, le plus proche possible des terrains, des localités, des territoires, pour voir, effectivement, des choses se déconstruire ou se reconstruire. Et je m'arrête là. J'avais prévu de continuer encore sur, notamment, cette formule que nous devons à Frédéric Barbi, c'est pour qu'il est là, ça tombe bien. Une ZAD est une résidence d'écriture. Moi, j'ai trouvé cette formule absolument géniale. Donc, je l'ai prise. Hein. Elle est attribuée. C'était un séminaire de Marseille. Donc, ça, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Évidemment, on peut en faire une lecture radicalité des mouvements sociaux, retour de populations complètement exclues du jeu, qui vont investir comme ça des causes, etc. On peut aussi le voir dans l'esprit de ce que j'ai montré, c'est-à-dire en fait de reconquête et de rétablissement de ces comptes anthropocènes. Avec toutes sortes de nouvelles ressources, puisqu'effectivement, il n'est pas exclu d'y mettre du numérique. Bon, bref. Je vais juste. Alors, là, c'est une réponse justement à quelqu'un qui disait c'est pas avec 3 jardins partagés que tu vas changer le monde. J'ai dit ben oui, mais 1 jardin partagé, oui, 2 peut-être pas, 3 non, mais au bout d'un moment, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation avec le vote. Il y a plus de jardins partagés dans certains arrondissements que dans d'autres. Je passe là-dessus, je voulais juste finir sur le modèle qui était dans le bouquin. Donc ça, c'est typiquement une exemplification de la contre-anthropocène rurale. C'est une ferme terre de liens où on part de rien et on reconstruit, on achète une vache, un gars qui prend sa retraite dans le Limousin, on va essayer d'aller voir les cantines scolaires et tout le monde vient, y compris le chercheur, pour essayer de débattre des contraintes. La principale contrainte, c'est les marchés publics. C'est-à-dire vendre les yaourts de cette ferme aux cantines scolaires, je suppose, en fait, du favoritisme du point de vue du droit de la concurrence, et donc il va falloir faire sauter des verrous. Donc en fait, il rentre dans un combat qui peut durer 10 ans, alors qu'au départ, c'était oui, c'est possible, etc. Donc c'est très intéressant de voir justement comment les grands enjeux globaux se retrouvent engagés en fait dans ces épreuves et que le futur se travaille à ce niveau-là. Bon, je passe. Le modèle sur lequel on s'est arrêté, le problème, ça va être d'en sortir maintenant. C'est... Cet été, j'ai été un peu fatigué, c'était Luhmann. Nicolas Luhmann, quand même, grand sociologue allemand. Il y a quand même une conception des systèmes un peu dans l'esprit des systèmes complexes. Hein, etc. Une fois qu'on a eu cette espèce de circulation entre des sphères dans notre sociologie, on est bien dedans et ça va être difficile d'en sortir. Quoi. Donc il va falloir l'éloigner. En gros, l'idée, c'est que les destinations que donnent les acteurs à leur cause ont toujours une sortie vers un autre régime, et qu'une énorme part du travail politique qui est fait dans nos sociétés contemporaines, telles qu'on l'observe, consiste à transformer une cause, à la faire émerger, à venir alimenter ou nourrir un contre-discours, à faire en sorte que ce contre-discours puisse produire des effets sur le discours dominant. Parfois, le contre-discours devient dominant. Hein. Chez Boltanski, c'est la récupération de la critique, hein, de toute manière. Ou chez d'autres, hein, c'est pas nouveau, en soi d'ailleurs, les marxistes avaient beaucoup évoqué ça à l'époque. Le transformer en dispositif de régulation et d'évaluation, donc effectivement les Fab Labs soumis à des normes européennes, ça, pourquoi pas, vous pouvez imaginer, c'est d'ailleurs le début de la fin, certainement. Évidemment, que ces normes soient actives dans des milieux qui vont être sous contrôle, donc là c'est un peu le côté Foucault du modèle, c'est-à-dire qu'en fait on va réussir à gouverner les activités à partir de cette normalité, et puis ces milieux peuvent à nouveau entrer en crise par émergence d'hétéro-utopie ou d'hétérogénéité dans lesquelles d'autres acteurs vont venir grignoter. Et je m'arrête là-dessus.
Merci beaucoup. Donc vous avez prévenu, mais en même temps, il nous a résumé 468 pages en quelques minutes, donc bravo pour l'effort.
Quelques minutes, toi, j'ai pas été...
Oui, non, mais tout à fait.
Ça t'a pas paru, en tout cas.
Non, c'est très bien.